présentation de cette notion d'hospitalité et la raison pour laquelle Annie a choisi ce thème, ainsi que les personnes qui ont organisé ces rencontres autour de l'hospitalité, en raison justement de son opportunité, de son actualité, je disais un petit peu paradoxale, dans un moment où on insiste essentiellement sur la manière de maîtriser l'arrivée des étrangers, c'est-à-dire des immigrés, de les rejeter même, de leur poser des conditions extrêmement strictes de présence, les journaux le portent ce matin avec des examens même à faire passer, tout un tas de choses assez que l'on présente comme étant logiques et qui en fait sont particulièrement intolérables. C'est pourquoi le texte que je vous ai présenté au début, je l'avais écrit pas pour aujourd'hui mais pour une présentation à l'université de Paris 8, parce que c'était une... Ah bonjour Marwa. C'était à propos d'un petit colloque, enfin d'une petite journée qui était consacrée justement au problème des sans-papiers. Je l'ai repris et je vous le distribue. Il sera publié peut-être à Paris 8, mais d'une façon tellement confidentielle, et puis de toute façon ça n'a pas tellement d'importance si c'est diffusé de côté et d'autre, parce que je dis essentiellement que le problème essentiel, c'est de diffuser ce mot d'hospitalité, c'est-à-dire de substituer ce mot au mot qui règne sur la vie médiatique et politique, et en particulier au moment de la fameuse campagne électorale, sous prétexte que ça correspond à la pensée des Français, c'est-à-dire identité française, c'est-à-dire sécurité, c'est-à-dire réglementation des immigrés, etc. Comme si la France était littéralement envahie, submergée par des flots de barbares. C'est quelque chose dont on ne croit pas ses yeux et ses oreilles, mais qui existe effectivement. Alors je signalais, c'est comme ça que j'avais commencé mon intervention, et je la recommence en vous renvoyant vers ce petit texte, parce que je venais de lire, je dis j'ai appris hier que ça avait été prononcé il y a une dizaine de jours, mais ce hier, on pourrait dire aussi que c'est à la fois hier et aujourd'hui, parce que des faits qui de la part soit de la population, soit des autorités, soit des hommes politiques mentionnent également ces attitudes, cela fourmille, on n'a qu'à regarder au hasard dans n'importe quoi ou entendre à la télévision ou à n'importe quel moment, on trouvera toujours quelque chose qui met l'étranger, l'immigré, associé à l'indésirable et au délinquant en relation. J'ai appris hier, je dis dans ce petit texte, je voudrais commencer à dire j'ai appris hier en faisant référence à Antonin Artaud. Je ne sais pas si vous avez cela présent à l'esprit, en 1947, c'est une conférence que Antonin Artaud, qui devait mourir peu après d'ailleurs, devait prononcer, et qu'il a à la radio, qu'il a prononcé au Vieux Colombier, mais qui n'a jamais été prononcé à la radio parce qu'elle a été censurée. Il y avait bien de la télé à ce moment, mais elle était inventée, mais elle était très peu répandue, donc c'était exclusivement la radio. Et ce texte qui s'appelle « Pour en finir avec le jugement de Dieu », qui est d'ailleurs actuellement disponible parfaitement et qui est même en DVD que l'on peut entendre. Il a été heureusement enregistré avec la voix caverneuse de Artaud au Vieux Colombier. commence précisément par « J'ai appris hier ». Et ensuite, c'est un réquisitoire très intéressant, anticipateur, prophétique en quelque sorte, sur les méfaits de l'impérialisme américain, en particulier à l'égard du monde, et en particulier aussi à l'égard de formes de civilisation qui ne sont pas les formes de culture, mais de civilisation des pays occidentaux développés, mais des pays asiatiques, des pays arabes, etc. Donc, c'est un texte qui est extrêmement intéressant et qui s'appelle, et vers lequel je vous renvoie, mais il n'en est pas question ici. C'est-à-dire, c'était surtout cette formule « j'ai appris hier » qui m'avait intéressé. Alors, ce que j'avais appris hier, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire à quoi l'on peut se référer, et je ne sais pas comment ça s'est résolu d'ailleurs, c'est qu'il y a une dizaine de jours, il y avait dans le journal, ce que vous avez lu sans doute, un entrefilet dans le journal. C'était dans Libération, mais ça pouvait être dans d'autres journaux également, je pense, où il y avait une population une population, je ne sais pas de quel village ou de quelle banlieue de province, c'était dans le sud-ouest, je crois, qui s'était opposé, c'est-à-dire des propriétaires habitants une nouvelle rue résidentielle qui avait été construite, s'était opposée à la municipalité. Là, c'était en fait la population, ce n'était pas les hommes politiques qui imposaient leur pensée, c'était la population qui s'opposait à l'idée du maire et à la décision du conseil municipal de donner à cette rue qui n'était pas encore nommée le nom de l'abbé Pierre. Or, ils avaient dit, alors ils avaient fait, eux, je ne sais pas si c'était l'unanimité, je ne pense pas, mais enfin majoritairement, il y avait des gens qui avaient eu l'idée et le culot, on pourrait dire, l'audace de prendre la tête d'une pétition disant qu'ils ne voulaient pas qu'on donne le nom de l'abbé Pierre, parce que le nom de cet abbé était associé à des gens sans aveu, à des SDF, à des gens sans papier, etc., et que ça discréditerait leur rue, et que, d'autre part, ça ferait baisser la valeur vénale de leur maison. C'est quelque chose d'incroyable, cette ignominie, mais elle est vraie. Et c'est pour ça que j'écris, ce n'est pas mon habitude de style, mais de fureur, j'ai écrit, c'est la France immonde, c'est la crapulerie identitaire, c'est tout ce qui règne sur les écrans que l'on fait adopter de force, et qui est adopté, d'ailleurs, ce qui est malheureux à dire, aussi bien par des gens de gauche que par des gens de droite. Au nom de quoi? Au nom de quelle raison? Au nom de quelle idée? Alors, je pense, c'est pour cela que j'avais dit, que substituer à ces idées et à ce langage, le langage de l'hospitalité, est quelque chose de tout à fait différent. Ne serait-ce que l'affirmation de ce mot, de l'idée qui est autour, et la substitution à cette idée du rejet de l'étranger, du refus de l'accueil, l'idée au contraire de l'ouverture, de l'accueil, de l'enrichissement à partir de la présence étrangère, du contact avec l'étranger, avec celui qui vient de demander l'accueil, qui vient demander l'asile. Je dis également dans ce petit texte d'ailleurs qu'à la limite, si l'on cherche l'identité française, c'est pas du tout l'identité cocardière d'une prétendue race française qui n'a jamais existé, ou même nation française qui ne s'est jamais formée qu'à partir des populations étrangères, c'est justement l'accueil. La France est totalement associée au droit d'asile. Or, supprimer l'idée de droit d'asile, c'est précisément supprimer ce qui, dans une certaine mesure, pouvait faire parmi les autres nations cette identité. Encore qu'il y en a d'autres qui l'ont pratiqué d'une façon tout aussi grande et même plus ouverte, en particulier en Amérique, qui a été faite à partir, qui s'est constituée soit aux États-Unis, soit l'Amérique méridionale, l'Amérique du Sud, à partir de à partir d'un afflux d'immigrants. Il est vrai, là, je ne veux pas entrer dans ce domaine de comparaison, parce que l'on pourrait dire qu'également, cet afflux d'immigrants a été accompagné par l'extermination ou le refoulement des Indiens, que d'autre part, au cours de l'histoire récente des États-Unis ou des pays d'Amérique latine également, un grand nombre de lois limitant l'immigration sont venues porter atteinte également à ce principe de l'accueil de l'immigration. Mais enfin, il reste que cette idée d'une nation qui peut se définir précisément par l'ouverture, par l'accueil des autres, par une autre forme d'attitude que celle du repli sur soi, est une idée qui doit être substituée, et je dis inconditionnellement, oui, inconditionnellement, c'est-à-dire c'est une idée qui n'admet pas de limitation. On ne peut pas dire mais il faut limiter le nombre des arrivants ou non. Ce n'est pas le problème. De toute façon, encore une fois, ce nombre des arrivants ne sera jamais tel qu'il correspondra à une submersion, à une invasion de la population existante. Donc c'est plutôt un fantasme. Donc comme dans tous ces cas, c'est une sorte d'obsession, une sorte de fantasme, une sorte de psychose. On avait dit, je pense à un domaine qui est un petit peu associé à celui-ci, comme un coq à l'âne ou comme des cheveux sur la soupe, mais qui n'est pas sans rapport non plus dans les attitudes. C'était le domaine de l'homosexualité. Guy Hockenghem, qui a écrit en 1972 un livre qui s'appelle « Le désir homosexuel », qui a eu une très grande influence sur la prise de conscience et la reconnaissance des homosexuels dans leur droit à l'exercice de leur sexualité, à leur reconnaissance publique, écrivait au début quelque chose qui vaut également dans ce cas. Ce qui caractérise le problème de l'homosexualité, c'est pas du tout de s'interroger comment une sexualité normale devient anormale dans l'homosexualité ou quelle est sa genèse. Ce qui est important, c'est la phobie, le rejet à l'égard de l'homosexualité. C'est ça qui est la psychose. Pourquoi rejette-t-on l'homosexuel? Or, de la même façon, on peut dire le problème n'est pas de savoir est-ce que les étrangers peuvent venir. Le problème, c'est la psychose anti-émigrée, ou ce qui est pire que la psychose peut-être, et qui revêt des aspects de rationalisation, de légitimation, justement, c'est ce calcul qui consiste à savoir combien on peut en admettre, quelles sont les conditions pour qu'il soit admis, qui correspond tout simplement, d'ailleurs, sous une forme larvée et une forme hypocrite, tout simplement au rejet de l'autre, ce qui consiste à dire, nous vous admettons bien, vous qui êtes étranger, mais à condition que de vous devenir rigoureusement semblable à nous, c'est-à-dire que vous ne le soyez plus. Donc c'est une forme de raisonnement qui correspond exactement à cette obsession du rejet d'autrui, du rejet de la différence, du rejet de l'altérité, si l'on peut utiliser cette formule un peu barbare. Et voilà ce que je voulais dire, présenter. Alors, je reviens pour être un peu plus précis dans et ouvrir peut-être une discussion, parce que là, j'ai depuis plusieurs années fait énormément d'exposés concernant l'hospitalité, l'homosexualité aussi, mais l'hospitalité également. Donc, je n'ai pas l'intention de faire un exposé en forme qui serait développé en plusieurs points, mais Annie a eu l'amabilité de présenter ces deux livres qui jalonne un petit peu ses études sur l'hospitalité. Je précise, le premier s'appelle « Zeus Hospitalier ». Je mets en garde contre et également une mésinterprétation ou une sorte de mauvaise association linguistique, verbale, et qui est tout à fait pardonnable d'ailleurs, mais qui a été faite à certains moments, y compris au moment où j'avais titré ce livre « Just Hospitalier », c'est que le terme, effectivement, le terme « hospitalier », pour un certain nombre de personnes, et elles sont parfaitement excusables, étant donné l'usage du langage, fait essentiellement penser aux institutions hospitalières, c'est-à-dire à l'hôpital. Et il est vrai que l'hospitalité, dans son sens, authentique, dans son sens originel, a un peu disparu. Parce qu'elle n'apparaissait pas comme étant quelque chose qui caractérise d'autres comportements que des façons de parler, des accueils en disant je vous offre l'hospitalité, etc. Donc, redonner sens à cette formule est effectivement quelque chose qui va à l'encontre un peu des habitudes linguistiques, puisque on associe cela à généralement aux institutions hospitalières de l'hôpital. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'hôpital ou l'hospitalité de l'hôpital ne soit pas à mettre en relation et avec l'hospitalité. Il y a d'ailleurs très récemment, ces dernières années, des publications qui ont été consacrées à ces différentes utilisation, apparition du mot et des usages de l'hospitalité autour d'un groupe de recherche qui était organisé par Alain Montandon, professeur à Clermont-Ferrand, et qui a été à la tête d'un grand nombre de publications en ce sens et de volumes, d'ouvrages. Il y a un ouvrage qui est consacré précisément à ces différentes formes d'hospitalité et en y incluant, d'ailleurs, justement, les institutions dans lesquelles l'hospitalité ou le mot hospitalité s'est conservé, comme l'hôtel, l'hôpital. Et ça a donné lieu à une publication qui a paru, il y a 2 ou 3 ans, qui est très intéressante, qui s'appelle « Les lieux de l'hospitalité qui sont conservés, qui existent, et où effectivement le mot est déformé, le sens originaire du mot de l'accueil de l'étranger, du pèlerin, etc. » n'est plus exactement le même, mais où, malgré tout, authentiquement, on peut dire qu'il y a des pratiques hospitalières ou qu'il peut y avoir plus ou moins d'accueil, d'ouverture hospitalière. C'est certain qu'on ne peut pas, au nom d'une authenticité qui nous ramènerait exclusivement vers l'usage de l'hospitalité dans l'Antiquité grecque ou latine, ou dans la tradition, on ne peut pas éliminer non plus cet usage du mot et du sens de l'hospitalité qui s'est conservé dans ces institutions comme l'hôpital ou l'hôtel. Il y a des modifications, mais malgré tout, le sens y subsiste. Ce sont également des institutions d'accueil. D'ailleurs, la profession médical a dans ses statuts des formes d'obligation, de déontologie comporte quelque chose qui est une ouverture hospitalière, puisque le médecin, l'hôpital ne peut refuser ses soins à une personne, n'est pas dans l'obligation de ne pas de faire dépendre les soins attribués à la situation de la personne, n'est ni même aux infractions que cette personne aurait pu faire à l'égard, commettre à l'égard de la société, de la justice. Donc il y a quelque chose qui est une sorte de différence, tout au moins, qui peut être conflictuelle parfois, entre la législation publique, la législation de la sécurité intérieure, par exemple, et d'autre part, les obligations qui sont faites à l'institution hospitalière pour offrir ses soins à n'importe qui, à celui qui se présente. Dans ce livre, mais incontestablement, Zeus Hospitalier n'a pas rapport avec cette institution hospitalière, pour la bonne raison que l'institution hospitalière n'existait pas à cette époque. Elle a été instituée au début du Moyen-Âge, et en particulier alors par ce personnage que je cite, ce personnage qui est à la fois historique et légendaire, que je cite, et qui a été l'objet en particulier d'une nouvelle, d'une grande nouvelle, d'un grand conte de Gustave Flaubert, Julien, Saint-Julien l'Hospitalier, et qui est le fondateur justement de cette institution qui a commencé avec l'Église qui a donné lieu aux ordres hospitaliers, essentiellement d'ailleurs consacrés à ouvrir des hôpitaux pour les pèlerins, pour les gens, les vagabonds, les mendiants, les gens qui étaient en difficulté et qui erraient par les routes. Donc l'hospitalité prend bien sa source également, tout au moins dans les temps modernes ou à partir du Moyen-Âge, dans une forme d'institution hospitalière. Seulement, à travers le personnage de Saint-Julien l'Hospitalier, d'ailleurs, je montre comment, en fait, elle est là d'une inspiration qui n'est pas simplement une institution civile, mais porte beaucoup plus loin, vers cette sorte d'ouverture, d'accès, d'ouverture à autrui inconditionnelle, hyperbolique, de nature qui est présentée à travers Saint-Julien l'Hospitalier, de nature divine, un peu comme l'hospitalité antique également, pour montrer qu'elle débordait la loi civile, qu'elle ne pouvait pas se cantonner à l'intérieur des limitations que la société civile et les exigences ou prétendues exigences de la sécurité lui imposaient, que cette hospitalité a des dimensions illimitées et justement hyperboliques, pour employer cette expression, qui, je crois, traduit bien cet excès toujours qu'il y a dans le droit de l'hospitalité ou l'appel à l'hospitalité relativement, un excès relativement au droit écrit, au droit inscrit dans une constitution. À cet égard d'ailleurs, puisque je disais qu'il fallait substituer en permanence dans nos pensées au langage de la sécurité, au langage de l'identité, celui de l'hospitalité, de façon à contrer ce qui nous est déversé dans les oreilles ou sous nos yeux d'une façon permanente, on pourrait dire qu'il n'est pas exclu que l'on puisse également demander à une constitution d'inclure une notion comme celle de l'hospitalité. Là, ce n'est pas le cas. La constitution ou la déclaration des droits comporte des droits fondamentaux qui sont très importants et qui délimitent justement le champ d'une démocratie telle qu'elle a été définie par la Révolution française, qui sont les déclarations des droits autour de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Le mot de fraternité, on pourrait dire, est un peu peut-être apparenté à celui de d'hospitalité. C'est ainsi d'ailleurs que la Révolution française l'avait conçu, puisque une des premières dispositions dans le domaine des lois, non pas des déclarations de principe cette fois, mais des lois, c'est celle du droit d'asile qui a été proclamée, je ne sais plus exactement à quelle date exacte, mais en 1789 ou 91, dans le cadre de la déclaration des droits de la Constitution française. Donc, ce droit d'asile a été au cours du XIXe siècle, au cours de l'histoire récente et au cours déjà du XIXe siècle, a été constamment soumis à des rectifications, des modifications, des limitations, mais enfin, il restait quand même un principe essentiel. Il était repris d'ailleurs d'une notion qui, elle, a été rayée ou à peu près complètement rayée de la carte des droits, qui était le droit d'asile offert justement par des institutions religieuses ou par des lieux consacrés au culte. Les églises en particulier. Bon, ce droit d'asile a été longtemps un droit qui a été associé à la pénétration à l'intérieur de l'espace religieux qui était celui de l'Église. On voit un exemple connu par tout le monde, par exemple, c'est Notre-Dame de Paris, où Quasimodo enlève la jeune Esmeralda et la protège contre la fureur de la foule. Donc il y a à ce moment-là l'affirmation d'un droit d'asile qui a été à plusieurs reprises utilisé, mais très fortement corrodé et contesté jusqu'à devenir symboliquement inexistant au moment, par exemple, où les sans-papiers qui s'étaient réfugiés dans l'église Saint-Bernard, c'est ça, ont été délogés par la force, mais ce qui d'ailleurs montre qu'une certaine sensibilité à cette notion du droit d'asile et à la violation du droit d'asile est restée quand même à l'intérieur de la sensibilité publique, puisque des images ou des échos de ces images, comme celle du bris des portes de l'église par la hache de façon à aller retirer les sans-papiers de l'intérieur de l'église, ont été quelque chose qui a frappé beaucoup les imaginations. De la même façon, ce droit d'asile a été repris en charge aussi, je citais, et cet aspect de ce que j'appelais la France immonde à partir de ceux qui avaient refusé le nom de l'abbé Pierre pour leur rue, mais il a été repris en charge pour ceux qui ont pris fait et cause pour les enfants de sans-papiers que l'on voulait expulser de France et qui les ont protégés, etc. Je ne fais ici que faire allusion à cela qui est bien connu, puisque c'est dans l'actualité tout à fait immédiate. Donc je voulais simplement utiliser ces références, ces allusions, pour dire qu'il y a dans la notion d'hospitalité, dans cette légalité ou cette atmosphère de droit qui l'entoure, quelque chose qui n'appartient pas exactement au domaine du droit précisé, inscrit dans une législation. Ce sont des droits qui dépassent en quelque sorte ce domaine des lois telles qu'elles sont édictées ou des décrets tels qu'ils sont pris par les États et par les gouvernements. Il y a quelque chose qui appartient, je le dis d'ailleurs, je crois, dans ce texte, à ce que l'Antiquité grecque et en particulier, là, ça se trouve dans la pièce de Sophocle Antigone, appelé les lois non écrites. C'est-à-dire l'hospitalité relève de lois non écrites, ce qui, d'ailleurs, est un petit peu du même ordre que quand l'on dit, en dehors d'ailleurs de toute adhésion à une croyance, à une religion, quand on dit qu'il y a quelque chose de divin, quelque chose de sacré dans l'hospitalité, donc c'est une sacralité ou une divinité qui dépasse effectivement le domaine de quelques religions particulières. Une loi non écrite, ça appartient un petit peu au même domaine et va dans le sens aussi de ce que je disais être cette hyperbole, cette illimitation de la notion d'hospitalité qui éveille en nous une certaine forme de sensibilité qui peut prendre les formes certainement, et même peut exiger des formes de juridique, c'est-à-dire une confirmation de l'hospitalité ou des droits de l'hospitalité par des lois, par des décrets, ou à l'intérieur même, je le disais à l'instant, d'une constitution, mais qui n'appartient pas malgré tout au même ordre, c'est-à-dire qui ne peut jamais se légiférer d'une façon totale. Je crois que ce qui est la grandeur de l'hospitalité, c'est à la fois qu'elle tend vers cette forme d'entrée, si l'on peut dire, dans le droit, et d'autre part qu'elle le déborde. Il y a toujours, d'une certaine façon, un excès. C'est un petit peu le sens que j'avais voulu donner à mon analyse de ce concept dans ce livre, Zeus Hospitalier, en étudiant les différentes formes, les différentes étapes historiques que je ne vais pas ici retracer, évidemment. Le second faisait appel, alors le second livre c'était sur Pasolini, c'est à la fois pour une certaine forme d'idée constante en fait dans la personnalité, dans l'œuvre de Pasolini, qui est effectivement en permanence sensible, ouvert à ces thèmes de l'étranger, de l'autre, de l'accueil, de quelque chose qui est tout à fait différent aux antipodes de la phobie, de la psychose identitaire, mais également relativement à une œuvre particulière chez Pasolini qui aborde très précisément ce thème de l'hospitalité qui est le film de Théorème. La dernière fois, on en avait parlé un petit peu et Annie Agopian voulait le faire le commander pour le projeter au cinéma Méliès, mais ça n'a pas été possible, de sorte que l'on a été amené à projeter un autre film qui était Œdipe roi. Mais parce que dans Théorème, il y a aussi un de ces aspects centré sur une hospitalité qui est un accueil d'étrangers, l'accueil d'un autre qui a une fonction très révélatrice, très efficace relativement au milieu fermé, à la famille bourgeoise à l'intérieur de laquelle il s'insère et transforme, bouleverse la conscience que les différents individus peuvent avoir d'eux-mêmes. Je ne vais pas ici, sauf si on le demande, analyser le théorème, mais c'est par ce biais que l'étude que j'ai faite, c'est-à-dire que nous avons faite en collaboration avec mon collègue Giorgio Passerone sur Pasolini, c'est dans cette mesure que que ce livre sur Pasolini se relie également au thème de l'hospitalité, sans y être exclusivement consacré, mais malgré tout, cette notion, cette idée forte, qui a une puissance d'action, de révélation, de transformation, se trouve tout à fait au cœur de l'œuvre de Pasolini. Je ne peux pas, là, comme je viens de le dire, me lancer dans une exposition qui serait un petit peu délicate parce qu'elle me nécessiterait de ma part de reprendre un certain nombre de choses que j'ai déjà dites ou écrites. J'aurais préféré effectivement que certaines personnes, soit qui ne connaissent pas du tout ce que j'ai fait, soit d'autres qui le connaîtraient, me pose des questions. Alors là, à ce moment-là, en répondant à ces questions, on pourra peut-être compléter et rendre plus vivant cette présentation. Oui, je vous écoute.
Je vous souviens.
Vous étiez venu la dernière fois, non?
Non.
Ah oui, c'est ça, oui.
J'étais l'un des trois premiers camping-cars à Paris. Et le fait de me déplacer dans des villages, j'étais une petite camionnette qui passait inaperçue, eh bien, je sentais immédiatement si j'étais accepté ou refusé, rejeté.
À quel endroit?
Un peu partout dans les villages,
oui.
On voit arriver une camionnette, on dit qu'est-ce que c'est.
Non, je veux dire en France.
En France.
Oui.
Et sauf lorsque j'avais ma petite fille avec moi, alors là, c'était plus tout à fait la même chose. Et ce sentiment, on le ressentait dès l'entrée dans le pays. Il y a quelque chose qui se passe. On le ressentait très fortement. Et voilà, je voulais faire part de ça. Et ça, et quelles que soient les régions, un peu moins dans le midi, parce que j'ai fait un peu tout à fond déjà, avant d'aller à l'étranger. Et c'était un moyen de... Les gens ont peur de l'étranger. C'est de l'inconnu, en fait. Je l'ai ressenti comme ça. Et dès qu'on pouvait entrer en communication, à ce moment-là, vous voyez qu'on partageait certaines choses, à tel point que, eh bien, le matin, j'ai encore... C'est dans le Nord, c'est assez fermé, le Nord. Eh bien... On avait apporté un petit gâteau pour ma petite fille, des gens du village. Donc je crois que la peur de l'autre qu'on ne connaît pas, avant le refus, je crois. Enfin, c'est comme ça que j'ai vécu. Voilà,
oui.
un témoignage. Et par exemple, j'ai un souvenir très précis à Chaudzec. Eh bien, c'était le où il venait d'avoir un terrain de camping tout neuf. Eh bien, j'étais arrêté sur la poule de la gare parce que je ne m'imposais pas, à la pas mis d'autres camionnettes. Et puis, il faut tout dire, j'ai été non-voyant lorsque j'étais gamin. J'ai été non-voyant pendant un an et demi. Et j'ai une très forte propension à collectionner les optiques, notamment les jumelles. Donc, j'ai toujours une paire de jumelles sur moi. Petite ou grande, et donc quand je m'installais dans cette cour, j'ai regardé autour de moi les villas, tout ça, et puis j'ai vu quelqu'un qui avait allumé ça alors que c'était éteint, et puis quelques minutes après, j'ai vu arriver une camionnette de gendarmes en me disant que je ne devais pas être là, qui venait de construire un camping tout neuf et que je devais aller au camping. Et donc la différence entre. J'étais dans un lieu bourgeois. Et donc, ce soir-là, eh bien, il était 10 heures, la communauté est venue vers 9h30, 10h. Hein. Il m'a dit, si vous êtes là demain matin, eh bien, je vous coffre. Hein. Bon, on l'a pas coffré. Donc, j'ai pris la comme je faisais souvent dans ces moments, je tournais, si j'étais appelé, je tournais à gauche ou à droite. Je comptais autant de fois, si je tourne à gauche, je tourne autant de fois à gauche, et le lendemain matin, je tournais à droite, et je retrouvais mon chemin. Et j'ai atterri dans une cour de ferme. Je suis allé voir le paysan, les chiens ont commencé à aboyer, et puis j'ai expliqué. J'ai expliqué ce qui m'arrive, j'ai dit, est-ce que je peux m'installer dans votre pré ? Si votre pré, il a dit, oui, bien sûr. Voilà. Et là, j'ai été accueilli parce qu'il y avait toujours la petite fille qui était là. Et le lendemain matin, on était entouré par tout troupeau de moutons. Voyez-vous, on a eu droit au lait, à du fromage et tout. Donc la peur, c'est la peur. Sauf dans le cas présent des gendarmes et du lieu qui voulaient amortir leur train conclure. Voilà. Donc là aussi, c'était déjà, ça se passe entre Français, en France. Et donc, que dire d'un étranger qui vient, qui ne parle pas déjà physiquement, puisqu'on le voit qu'il n'est pas comme nous autres, etc., etc. Mais je crois quand même la peur.
Oui. Ah, ça c'est certain, il y a toujours d'ailleurs dans la présence de quelqu'un d'étranger, la peur, la curiosité, oui. Mais ce que vous dites est très intéressant. On peut pas dire. Ça c'est certain que dans la société actuelle, il y a nécessairement plus de défiance ou d'hostilité à l'égard d'un étranger, parce que il y a toujours eu, ça c'est certain, des hostilités, des défiances, parfois qui ont été plus accentuées ou d'autres qu'à d'autres moments. Donc on n'a qu'à voir, on passait récemment à la télévision des séquences qui mettaient en scène des récits de Maupassant. Ça me faisait penser, mais ça n'a pas été mis en scène. C'est dommage d'ailleurs, mais peut-être parce que ça aurait été trop violent, trop terrible. Il y a une petite nouvelle de Maupassant qui porte sur un homme qui habite un village de Normandie, un jeune homme, et qui, je ne me rappelle plus exactement, mais dans quelles conditions, mais il fait venir sa femme après l'avoir annoncée. Or, cette femme se trouve être une Martiniquaise ou une Africaine, donc elle est noire. Et alors, dans ces régions-là, personne n'avait jusqu'ici vu de noir dans ce village. Et tout le récit de Maupassant, d'une façon très, très juste, très cruelle, très terrible, d'ailleurs, montre cette curiosité, je ne me rappelle plus comment ça se termine, si elle est rejetée ou s'ils sont rejetés ou non, mais il y a quelque chose qui est une sensibilité très, très forte, justement, à cette situation de l'étranger, en particulier de l'homme de couleur dans la France de cette époque, dans la France paysanne de cette époque, qui venait justement à la fois de la rareté vraisemblable de la présence des Noirs ou des Africains, et d'autre part aussi d'un préjugé racial qui était au fond et qui faisait qu'il était plus ou moins rejeté, même s'il n'y avait pas nécessairement d'hostilité à son égard. Donc on ne peut pas dire que de ce point de vue-là, si l'on se retourne vers les périodes antérieures, il y a eu nécessairement plus de facilité d'accueil. Malgré tout, dans la situation La situation actuelle impliquerait, et voilà quelle est un peu ma position, c'est-à-dire ce n'est peut-être pas par rapport à la confrontation avec une période révolue que l'on pourrait prendre conscience ou la mesure de la réserve ou de l'hostilité actuelle à l'égard de l'étranger, mais c'est plutôt parce que il n'y a plus il n'y a plus de relation véritable, il n'y a plus de vie en fait communautaire. Les campagnes sont de plus en plus désertifiées, elles sont de plus en plus elles ont de moins en moins de vie sociale intérieure. Donc il y a quelque chose qui fait que l'espace est immédiatement quadrillé par la gendarmerie, la police, par des formes de réglementation, la circulation, etc. Donc la présence d'un individu, mettons d'un individu qui se promènerait, d'un individu seul, est immédiatement considéré comme suspect. Et dans certaines régions, on peut en faire l'expérience, sauf dans des cas très particuliers où il y a des vacances, par exemple, dans des périodes de vacances, la présence de promeneurs, de marcheurs à pied ou de promeneurs isolés dans une campagne n'est pas nécessairement suspecte parce que, précisément, ils ne sont pas isolés, il y en a beaucoup. Mais dans d'autres circonstances, l'individu qui est seul, l'individu qui se promène, qui voudrait se déplacer dans ces conditions-là ou qui stationnerait à un endroit quelconque d'une route ou d'une agglomération serait nécessairement suspect, c'est absolument certain, au nom précisément de la nécessité de repérage, de quadrillage, de contrôle de la population. Je crois que c'est ça peut-être le problème qui établirait une différence entre une situation antérieure et celle qui s'est mise en place dans ces dernières années ou ces dernières décennies.
Ça me fait penser que marcher aujourd'hui dans l'espace public.
Comment le?
Lorsqu'on marche dans l'espace public aujourd'hui, il faut avoir l'air de rien.
Oui.
Pour être tranquille.
Oui.
Donc, tout le monde se met un masque, l'air de rien, pour ne pas être pris, comme disait à côté de moi, pris pour un rôdeur, pour ne pas être pris comme une menace.
Oui.
Donc, c'est complètement pervers. Oui. Dans l'être, la façon d'être dans l'espace public, on doit composer pour ne pas ressembler à ou se cacher.
Mais nous, c'est ça.
Ça devient délirant, quoi.
Hein? Oh, certainement. Oui, c'est ce qui affecte la langue elle-même, entre deux catégories de langage, qui entre se promener et rôder. Il y a des fois des gens qui rôdent, il y a des gens qui. Se promène, tout dépend de la vie et du monde qui peuvent se voir attribuer. René, moi je voulais te poser une question que je te pose assez souvent, que j'aimerais te reposer là, parce que les choses parfois sont axées autour de ce livre que j'ai énormément apprécié, qui malheureusement est d'ailleurs épuisé, personne ne le trouve nulle part ailleurs que dans les bibliothèques. C'est entre ces normes que tu poses par rapport à la notion même de solidarité entre le religieux, en convoquant jusqu'à l'Antiquité grecque. Je n'irai pas jusqu'à te reprocher, comme à tous les Européens, cette espèce de choix arbitraire de ne renvoyer le sens qu'à ce que vous croyez à partir du romantisme allemand être votre terreau de fondation, en quelque sorte, de la philosophie et du sens, soit pour les Grecs. Mais l'Antiquité gréco-romaine n'est pas uniquement ce que peut constituer la culture européenne actuelle. Depuis le temps, l'Europe, par l'ère coloniale, par les voyages, s'est ouvert de manière peut-être un peu trop curieuse et agressive, mais directe, sur d'autres cultures. Depuis l'impérialisme britannique, français, l'expédition napoléonienne, etc. On est allé chez l'autre, un peu pour piller, un peu pour, soi-disant, jouer les fanfarons, etc. Mais par le mélange des cultures, on ne peut plus, à notre époque, accepter cette espèce d'aphasie qui consiste à ne voir comme sous-bassement, comme sous-jacence, que ce qui viendrait de l'Antiquité gréco-romaine. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si on a l'envie d'aller quelques pas plus loin, par exemple, dans le patrimoine sémitique, dans la Bible, il y a cette histoire absolument incroyable de Lot qui défend le principe de l'hospitalité contre une hospitalité un peu excessive des gens de la ville qui voudraient non seulement recevoir mais profiter des visiteurs, c'est-à-dire jouer avec eux au sens un peu public et euphémique de la Bible, c'est-à-dire les sauter carrément, hein, les sauter à la casserole d'une sexualité débridée. Et l'autre dit, halte là, il y a une limite. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Peut-être que l'hospitalité est un type de réponse à une question qui est posée. C'est-à-dire, je te demande le gîte et la pitance. Mais je ne veux pas coucher avec toi, par exemple. Ou je ne veux pas que tu me forces à coucher avec qui que ce soit. Ça s'arrête là. C'est-à-dire à une demande précise qui est celle de mon besoin. Alors, la perversion va vraiment donner lieu à quelque chose de dramatique, c'est-à-dire, quand il y a non-respect de cette limite, de cette syntaxe de l'hospitalité, il y a le châtiment le plus terrible qui s'abat sur la ville et qui peut même poursuivre certaines curiosités un peu bizarroïdes, comme celle de Madame Lot, qui se retourne et qui elle-même est transformée en statufiée. Alors, ces normes du sacré, qui sont venues peut-être poser, fonder l'écriture précise d'un rapport, d'une relation entre les situations d'installation, donc où il y a le confort et la sédentarité, et les moyens de protéger une vie ou de s'abriter. Et puis, celui qui a besoin, mais d'urgence, besoin d'un partage raisonnable. D'ailleurs, chez les musulmans, l'hospitalité, c'est 3 jours, l'hospitalité sacrée. Au-delà des 3 jours, ça devient peut-être autre chose. C'est un contrat ou un échange, ou appelons comme on veut, mais c'est limité, donc c'est très précisé. Et qui vient s'inscrire sous le signe de ce que tu as très bien originé autour d'une organisation, du sacré, avec une autorité suprême qui veille à ce que la loi soit respectée. Mais tu ne penses pas que c'est insuffisant comme délimitation, parce que si on aborde les choses d'une manière laïque ou non religieuse, en tout cas en dehors De ce que j'ai indiqué comme limite, c'est-à-dire des bornes de ce que les Grecs appelaient philoxénie, hein, d'une part, qui est un besoin de recevoir l'autre. Ça va jusqu'à la cava, parce qu'il dit qu'est-ce qu'on va faire sans les barbares, ils ne se pointent pas à notre horizon, on va mourir d'ennui. Et puis, le travers opposé, c'est-à-dire la pathologie de la xénophobie, c'est ce que monsieur a signalé, qui devient vraiment très dur, quoi. Un homme qui se promène seul est tout de suite louche, il va voler nos poulets ou bien repérer un projet de cambriolage, etc. C'est-à-dire une peur systématique qui se transforme en hostilité, donc en agressivité, et en téléphone aux flics, aux gendarmes, etc. Alors, l'examen à travers le non-religieux de quelque chose qui irait peut-être au-delà même de ce que les religions sont venues théoriser et sacraliser comme rapport humain nécessaire à l'évolution d'un type de civilisation, d'un type de rapport entre ceux qui sont installés et ceux qui sont dans l'aléatoire, qui sont dans une phase de transition, à la recherche d'un débouché, ou qui viennent pour fuir un danger. Alors, l'approche laïque, l'approche non religieuse, ne serait-elle pas, et c'est là ma question, de l'ordre de ce qui est compris comme une nécessité absolue entre les hommes comme type de solidarité, une fois toi, une fois moi. Un peu comme quelque chose qui se passe entre les générations humaines, que je vois à travers le mythe des oasis, par exemple, qui n'est pas qu'un mythe, mais qui est coulé dans le langage comme une nécessité absolue. C'est-à-dire, si je plante un palmier dattier, je sais de manière certaine que ma durée de vie ne me permettra pas d'en profiter. Mais ce sont des générations futures qui vont en profiter au moment où il sera adulte et produira. Tout simplement pour payer le fait que moi, je mange le fruit d'un palmier qui a été planté par 4 générations derrière moi. Donc à travers le temps, forme de solidarité, mais forme de nécessité pour que la vie perdure, pour qu'il y ait pérennité humaine, pour qu'il y ait protection de la vie et de certaines qualités de la vie. Alors, ma question pour la résumer, en dehors du religieux, il y a très certainement à analyser l'hospitalité sous un autre angle qui est celui de la nécessité. Tout comme la loi, au sens sacré du terme, est dominée par quelque chose d'autre que les Grecs appelaient la ananké, c'est-à-dire la nécessité. En dessous, il y a l'aménagement de la loi qui est souvent transformable, changeable, adaptable aux besoins des époques, etc.
Oui, oui, c'est, tu veux. C'est absolument incontestable que il y a quelque chose qui dans l'hospitalité est du rapport de la nécessité de la solidarité immédiate du geste qui consiste à rendre service à soigner quelqu'un ou à lui donner à boire ou à manger, etc. Ce rapport est absolument incontestable, mais je pense qu'il est entouré, il n'est pas possible de le limiter simplement à cela. C'est-à-dire, si tu limites le geste de l'hospitalité à cet acte de satisfaire aux besoins les plus immédiats, il y a quelque chose qui, effectivement, permet de dire qu'il y a une pratique qui est à peu près générale, que l'on pourrait retrouver chez tous les peuples, mais je crois qu'il est plus intéressant, justement, de l'aborder par cet autre côté, de voir quelles sont les amplifications, les excès par rapport à ces limites, voir les transgressions, ou tout ce qui l'entoure, et qui, dans chaque cas, l'entoure d'autres formes de signification plus larges, c'est-à-dire qui vont jusqu'à déborder largement la satisfaction simplement des besoins immédiats. Je parlais l'analyse que j'avais faite dans ce livre-là sur Zeus l'hospitalier, autour de l'Odyssée, par exemple. L'Odyssée, c'est une succession de cérémonies, de rites hospitaliers au moment où Ulysse revient chez lui. Et ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs, c'est précisément que ce n'est pas simplement des hospitalités qui portent sur la partie de la satisfaction des besoins matériels. Elle s'est aussi très érotisée d'ailleurs, parce qu'il y a l'hospitalité de Calypso, l'hospitalité de Circé, l'hospitalité de Nausicaa, qui montre justement ces arrière-fonds à la fois mythologiques et humains et qui débordent considérablement sur l'hospitalité de service, si tu veux, qui est un peu limitée à la satisfaction des besoins élémentaires. Toujours, l'hospitalité a tendu vers cela. C'est un petit peu sur la ligne qui va faire qu'à un certain moment, au lieu de correspondre à des gestes ou à des relations interhumaines, elle va correspondre à quelque chose qui va être institutionnalisé. Et c'est la partie institutionnalisable de l'hospitalité, là, ce qui va être institutionnalisé sous la forme des caravansérages, sous la forme des hôpitaux, sous la forme des hôtels. Bon, toute cette partie de satisfaction du besoin, c'est cette partie qui est entrée dans l'institutionnalisation juridique et qui, à un certain moment, a rendu, dans une certaine mesure, inutile ou tout au moins superfétatoire une hospitalité qui serait accordée par des individus ou par des groupes ou des familles, puisqu'en fait il y a des institutions qui en sont chargées. Ce qui m'avait intéressé davantage, c'était le fait que ces institutions, ces hospitalités de type juridique, saturaient pas, si tu veux, ne remplissaient pas toutes les significations qui étaient impliquées par une hospitalité qui déborde incontestablement ce caractère juridique et institutionnel. C'était ça, au fond, le problème. Sinon, ce que tu dis est tout à fait exact. Maintenant, quand tu dis, quand tu cites comme exemple Lot et la Bible, je dis précisément, là, on voit, c'est un petit peu l'inverse que Klosowski présente dans les lois de l'hospitalité, c'est-à-dire que la Bible impose à ce moment-là l'interdit moral, et l'interdit moral portant d'ailleurs spécifiquement sur l'homosexualité, puisque à un certain moment même, Lot, pour sauver les deux anges masculins qui sont aux prises avec la population de Sodome, propose de leur donner ses propres filles. Donc c'est assez scabreux d'autre part, mais de toute façon, ça prouverait à ce moment-là qu'il y a bien une forme de condamnation spécifique que la Bible va faire peser sur ce qu'on a appelé d'ailleurs ensuite explicitement et uniquement la sodomie. Donc là, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est un petit peu central, un peu un nœud en quelque sorte de la problématique, ce qu'on pourrait appeler la problématique de l'homosexualité, mais qui n'est pas du tout justement sans intérêt, puisque encore une fois, on va en retrouver la reprise, mais tout à fait inversée de ce point de vue-là, de ce que l'on pourrait appeler la prestation sexuelle dans un livre comme les lois de l'hospitalité de Klosowski que l'on avait étudié la dernière fois ou que j'avais abordé la fois précédente. C'est peut-être ça, c'est-à-dire ce caractère hyperbolique de l'hospitalité où en fait il y a à la faveur de l'étranger, l'étranger n'est pas quelqu'un qui arrive puis qui repart, comme par exemple un client de l'hôtel arrive et repart. Il modifie. Ce qui est intéressant dans l'hospitalité, c'est justement cette modification qui se produit par suite de la relation avec l'étranger, qui apporte quelque chose d'autre, qui change quelque chose d'autre. Quand je citais également cet exemple du théorème de Pasolini, c'était ça, c'était ce cas d'une hospitalité qui n'est pas simplement un accueil dans une maison ou une réception passagère, mais en même temps une modification profonde de la relation. Sinon, la société reste, fonctionne, mais reste à l'état, on pourrait dire, pour employer l'expression qui avait été utilisée par Bergson, de société close. Et pour qu'une société se transforme, justement, il faut qu'elle fasse entrer dans son hospitalité quelque chose de supplémentaire. Et quelque chose qui va se produire et qui ne se produit pas nécessairement d'ailleurs dans le cadre de la réception hospitalière, mais le mélange des individus, le mélange racial, le mélange ethnique, sont des phénomènes justement d'apport par suite de l'hospitalité qui crée justement des métissages et qui transforme les populations autochtones. Parce qu'on peut considérer l'hospitalité ou bien comme le propriétaire installé ou l'habitant installé qui reçoit des gens et qui leur rend service et qui ensuite qui part et qui n'en est rigoureusement pas transformé, ou bien on peut la considérer sur le plan justement de cette transformation. C'est ça qui, à mon avis, est le plus intéressant. Ce contact qui est en même temps une transformation, c'est ça, cet accueil qui est en même temps une transformation et qui n'est pas simplement... Là, les mots sont indifférents, mais enfin, c'est les choses qu'ils expriment qui sont à saisir, qui n'est pas simplement une réception. C'est pas une réception simple, mais c'est aussi une transformation. Oui, Nicolas. Oui.
J'ai l'impression que pour vraiment rentrer dans cette idée de l'hospitalité et la pratiquer, en fait, il faut quand même prendre des risques, non ?
Pour parler un peu plus fort, Nicolas.
Est-ce que pour pratiquer l'hospitalité et vraiment qu'il y en ait plus, parce que le problème, oui, c'est qu'il y en ait plus, est-ce que ça demande d'accepter de prendre des risques et de...
Je n'ai pas très bien saisi. C'est bien là pour me le dire. Tu sais pas bien que je suis sourd et tu fais exprès d'être dans le fond, de parler d'une voix monocorde et de faire en sorte que je comprenne pas très bien ce que... Là, ici. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire qu'il y avait là?
Est-ce que pour pratiquer l'hospitalité,
oui,
tel que tu l'entends, est-ce qu'il faut accepter de prendre des risques? Parce que j'ai la sensation que, par exemple...
Dans Saint-Julien, l'hospitalier, il prend bien un risque, puisqu'il prend un lépreux qui s'applique complètement sur ce lépreux, qui le baise ce lépreux, mais à ce moment-là, il est emporté par Jésus-Christ qui l'enlève dans le ciel. Donc là, il a bien pris un risque absolu, étant donné... qu'il s'est appliqué justement sur l'épreuve dans la légende, dans la description de Flaubert, qui était, je ne sais pas si vous l'avez présent à l'esprit, je le cite dans mon livre, c'est une description extravagante, extraordinaire, mais donc qui est la paradoxale et qui est hyperbolique et paradoxale. Oui, c'est ça, si tu veux, c'est bien. Tout n'est pas comparable à cette action de Saint-Julien l'Hospitalier envers le lépreux. Là, on pourrait dire que c'est un petit peu une limite. Mais je crois qu'il faut toujours penser par rapport à cette limite. Et je pense qu'effectivement, la limite, dans un certain sens beaucoup plus trivial, de l'hospitalité peut être le parasitage. C'est-à-dire tu offres l'hospitalité et ensuite tu ne peux plus te débarrasser du parasite. Ça c'est absolument incontestable. Donc ça entre également dans cet ordre d'idées. Oui. Oui, Claudia.
Moi, je voudrais penser à cette hospitalité comme elle est vue actuellement, et puis comme elle est vue ici. Moi, en tant qu'étrangère, je prends le recul de ce qui se passe avec l'étranger ici en France. Oui. Alors, ça m'interpelle justement ce point de vue philosophique et pour les temps qui coulent. Et puis, je vois que justement, quand il y a ce passage, disons, de l'étranger avec un pouvoir économique, il serait dans les cordes d'une hospitalité entendue dans un système, disons, de ce libéralisme de laisser faire, laisser passer. Alors, ces hôtes seront bienvenus. Ces hôtes, disons, de passage, dont les législations, les droits positifs modernes, ce sont des hôtes bien accueillis, mais que l'étranger qui n'a pas, ou qui est dans les cordes de ce qui n'apporte pas un bénéfice économique à l'État, alors sera refusé. Et puis ce point de vue, c'est très important parce que si on voit, disons, l'équilibre entre cette hospitalité entendue comme don, comme quelque chose qui est porteur d'une certaine transformation et puis une intégration de ce qu'est l'autre en soi, son humanité, alors on voit qu'il faudrait prendre ce point de vue de l'hospitalité dans un contexte social et communautaire déterminé. C'est ça. Disons que, par exemple, si je prends l'exemple des Indiens de la Sierra Nevada en Colombie, je vois comme eux, ils se retranchent dans leur communauté et tout étranger et n'est pas bienvenu parce qu'ils cherchent à écraser, à exterminer cette communauté qui est vraiment sociétairement dans un rapport d'hospitalité entre ses membres et ses habitudes, disons, sacrées, parce que si, disons, quelqu'un tombe malade dans leur territoire, ils vont chercher le guérir, ils vont chercher le nourrir pour qu'il puisse vraiment partir d'une façon telle qu'il pourra peut-être revenir s'il accepte. Mais ça, c'est, disons, que le terme d'hospitalité, je le conçois dans des contextes sociaux très déterminés et que ce que l'on peut trouver dans toutes ces quantités des images littéraires, mythologiques, c'est justement comment ajuster et comment critiquer, parce que d'un côté je vois un ajustement dont la mythologie sacrée des Grecs, quand par exemple il y a une hospitalité totalement érotique, quand il y a le sens de l'accueil par un besoin, c'est-à-dire il y a tellement de rapports divers dans l'hospitalité que voilà, les sociétés vont faire en sorte de savoir comment gérer cette affaire. Mais pour retourner à le début de ce que j'ai essayé de voir par rapport à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le sens du don et de cette transformation de ce que l'on découvre de l'autre qui est vraiment porteur d'un message bien qui va transformer l'individu ou va, disons, apporter quelque chose de nouveau, pour dire que je crois que les sociétés si fermées ne permettent pas d'intégrer une hospitalité dans un sens de donation et dans ce sens du sacré que...
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie même d'avoir présenté et soulevé le problème sous cette forme qui fait apparaître en effet une dimension que je n'ai pas abordée ou tout au moins qui est restée un petit peu confuse. Et ce que tu as dit me permet un peu de préciser les choses. Incontestablement, c'est parfaitement vrai qu'il y a quelque chose à la fois de contradictoire, de paradoxal un peu quand l'on brandit, l'on l'on présente l'hospitalité comme étant un argument en le cherchant du côté soit de l'archaïsme ou de l'histoire ou des sociétés qu'on pourrait appeler, disons, de sens absolument aucun caractère péjoratif, mais enfin qu'on peut appeler primitive, parce qu'il est certain que l'hospitalité est un concept tel que je la conçois, tel que je la présente, tel que l'on peut l'utiliser à l'heure actuelle, est incontestablement un concept utopique. C'est-à-dire que ce n'est pas... Il prend des exemples, il prend des allusions, on pourrait dire, dans l'histoire, dans l'archaïsme, mais il ne peut pas dire nous devons rétablir des choses qui se sont pratiquées comme étant une hospitalité absolue et qui maintenant ne se pratique plus, parce que ce n'est pas vrai. Et incontestablement, si tu prends des sociétés, même la société grecque par exemple, n'admettez pas à titre d'accueil hospitalier, il admettait les Grecs, c'était essentiellement, mais ce qui n'appartenait pas au domaine grec, les barbares n'étaient pas traités dans les relations hospitalières de la même façon. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement positif, totalement une ouverture, comme je l'avais dit, sur autrui, ou un accueil complet et permanent tel que l'on pourrait le concevoir ou le présenter. Les sociétés telles que tu en parles, sociétés indiennes également, sont des sociétés relativement closes à certains moments. Les rites d'hospitalité ou d'accueil sont très bien définis, sont ritualisés, mais ils ne portent sur une période indéfinie, ni ne concerne n'importe qui. Donc il y a toujours des limitations et des réglementations dans ce domaine-là. La manière dont je l'envisage, moi, c'est que c'est d'emprunter, en fait, à ces modalités, à ces coutumes hospitalières, des traits, des caractères qui nous montrent une autre forme possible d'existence, une autre forme possible de relation qui éliminée ou très fortement limitée dans les sociétés contemporaines. Mais on ne peut pas dire qu'une hospitalité entière se trouve ainsi dans l'histoire ou dans les différentes coutumes. Ça ne serait pas exact. Toutefois, il y a quelque chose qui nous indique des sens qui sont extrêmement fructueux à explorer et à analyser. Ça, c'est certain. Oui.
À cet égard, je me demande si on ne peut pas renverser la question. Oui. Est-ce qu'une hospitalité qui est limitée ou qui est juste en celle du droit, est-ce qu'on peut encore l'appeler hospitalité?
Est-ce qu'une
hospitalité limitée?
Oui.
Est-ce qu'il s'agit encore d'une hospitalité dans ce cas-là? Si l'hospitalité, telle que tu l'as définie, préfigure tout contraire, cela voudrait dire aussi qu'on ne va pas demander à celui qu'on accueille quels sont ses papiers, quelle est son identité, jusqu'à où ça peut aller, parce que sinon c'est un échange. C'est ça aussi la différence entre la solidarité et l'hospitalité. Pour être solidaire, il faut quelque chose en commun avec un objectif. L'hospitalité ne pose
pas de question.
Donc le risque est permanent, mais s'il n'y a plus cette idée, il n'y a plus d'hospitalité.
C'est ce qui m'a gêné.
Si elle devient conditionnelle, il n'y a plus d'hospitalité du tout.
Comment peut-on rendre opératoire un concept qui effectivement est grevé par une trop longue histoire et qui concernait des situations extrêmes de nécessité, un peu comme les gens équipés dans le nord, dans le forestier froid ou l'hospitalité du désert, c'est-à-dire les conditions extrêmes de l'espace, où la vie est en péril, si elle n'est pas secourue, et puis la gratuité absolue du don, et puis la condition de nécessité. Parce que si je viens chez toi tous les mardis, comme ça, c'est plutôt du parasitage, comme tu disais tout à l'heure. Donc, tous ces aspects font que ce concept d'hospitalité, même si on le rapproche de la notion de solidarité ou de la notion de tolérance, ne présente aucun bout par lequel notre modernité peut en faire usage d'une manière intéressante, salutaire, parce que les conditions des rapports entre les sociétés ont complètement changé. S'il y a un aspect que dans l'hospitalité il y a toujours une inégalité, c'est-à-dire celui qui donne et celui qui a absolument besoin qu'on lui donne un certain répit limité, on peut transposer sur la situation actuelle entre les sociétés pauvres et les sociétés riches. Les sociétés riches sont devenues inhospitalières, intolérantes, xénophobes, et ce sentiment est proportionnellement pénètre une envie terrible chez ceux qui n'ont pas ce confort, qui ne se sont pas assurés ces conditions, disons, de confort matériel, d'aller par effraction, par tous les moyens, exiger cette hospitalité. La pression qui est faite par les sociétés pauvres, par la géographie des détroits, ou même par l'Asie, les boat people, etc., ce sont des pauvres qui n'ont que le choix de partir derrière l'horizon en quête d'une possible survie de l'hospitalité humaine qui, comme nous le constatons maintenant, n'existe plus, parce que si elle s'adresse à l'un, elle ne peut pas s'adresser au grand nombre, etc. Il y a quelque chose de faussé.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est voir, disons, pourquoi celui qui porte de l'argent dans nos sociétés est bien dans cette hospitalité, et bien, disons, bien un hôte digne des sociétés qui sont dans des rapports, si on voit, parce que bon, là, on ne va pas parler de toute la portée de la pensée de René Scherrer, de ce qu'il propose dans des, disons, des rapports sociétaires. Mais moi, disons que déjà, je vois ce concept de l'hospitalité dans la philosophie de Scherrer comme quelque chose qui proposerait, une autre sorte de rapport à cette société, disons, dans l'étendue capitalisme, où l'hospitalité, ça crée du don, parce qu'il y a des règles qui se forment dans les peuples. Pourquoi certains peuples refusent d'être hospitaliers? C'est pas parce que, dans sa base, ils ne sont pas hospitaliers. C'est parce qu'ils ont été des rapports des autres peuples qui ont, disons, retréci ce rapport de don, de ce qui donne l'hospitalité, ce rapport vraiment de l'ouverture à l'autre. Et ils ont dû se retrancher dans leur propre, façon de vivre pour, apporter cette hospitalité qu'à ses membres ou à ce rapport qu'ils ont avec ces entités, et les rapports qu'ils ont avec, les connaissances du monde et sa fonctionnalité. Mais ce qui m'interpelle encore, c'est de ne pas, c'est une valeur dans l'hospitalité, et que même parler de qu'une constitution contienne une notion d'hospitalité, ça serait hyper important dès nos jours. Quelles sont les notions? Mais c'est parce qu'il faut parler d'un rapport social pour parler des différentes sortes d'hospitalité. Et que bien sûr, chaque peuple, parce que chaque peuple donne des conditions pour recevoir quelqu'un ou le refuser, bien sûr que oui. Et pourquoi pas une législation ne comporterait pas cette notion d'hospitalité comme quelque chose qui c'est un droit à l'individu. C'est-à-dire, pourquoi ne pas acquérir ça? Parce que, de toute façon, tous les peuples vont dans ce rapport du sacré. Il y a des instances qui vont permettre de voir comment les peuples vont faire ces approches ou vont accueillir ou, disons, refuser quelqu'un. Pourquoi, les gens ont peur de l'étranger? Parce qu'il y a à la base une sorte la société est éclatée, tout le monde se retranche et puis c'est plus facile de refuser à accepter. Parce que ce que je ne connais pas, je ne l'accepte pas. Et ça, c'est encore une pensée...
Monsieur n'a pas du tout parlé, là. Oui, très intéressant. Précis, oui. Monsieur, vous n'aviez pas parlé.
Je veux pas te couper.
Allez-y, oui.
Je ne connais pas du tout la question, mais la question que je me posais, c'est justement est-ce que l'hospitalité se heurte pas à la question du fait qu'il n'y a plus vraiment d'étrangers sur Terre. On dit l'étranger, mais le monde, depuis l'époque des Grecs, avec les barbares qui étaient là, d'autres gens, le monde s'est resserré progressivement, la modernité est passée par là, les hommes naissent libres au endroit, la notion de l'universalisme, elle s'est imprégnée largement dans nous. Maintenant, on considère, je veux dire, on peut difficilement dire, on sait qu'il n'y a plus besoin de l'Église pour dire que tout homme est bon frère. On le sait, on voit à la télé des étrangers, on voit ce qu'ils pensent, on lit des textes de gens de partout dans le monde, et on ne peut plus avoir l'image que celui qui habite en Inde, celui qui habite en Afrique est différent de moi, au bout du compte, réellement. Ou alors, il faut vraiment être vraiment abruti, quoi. Donc, en tout cas, ça ne se défend plus comme une idée. Hein. Ça ne se défend plus, même si ça peut encore pénétrer, mais à mon avis, l'absence d'hospitalité, et c'est en ça que je me pose la question si elle n'est pas plus maladive qu'à l'époque où on ne connaissait pas, on se méfiait, elle est maintenant liée au fait qu'on est des fourmis, peut-être, que chacun, comme vous dites, tout est quadrillé, etc., qu'on a ce... Et au bout du compte, elle s'applique aussi bien à celui qui est très propre, j'allais dire très proche, d'un côté, celui d'à côté, à qui on va ignorer. Et je me pose la question s'il n'y a pas plutôt, on parlait des lépreux, je me pose la question, là, il y a des lépreux, et partout, on a peur des lépreux autour de soi, mais des étrangers tels que c'était vécu dans le rapport d'hospitalité déclaré et prôné par l'Église, est-ce qu'il existe toujours ce...
Non, génial. Oui, je vous saisis. Je voulais juste préciser en trois mots, en deux ou trois mots, le débat ou la porte, ce sur quoi porte le débat et ma position, tout au moins, dans ce débat. C'est-à-dire que, premièrement, l'hospitalité, est un fait, un comportement ou une institution historique qui offre des exemples variés, qu'on peut prendre dans beaucoup de pays, dans beaucoup de peuples, mais on ne peut pas dire à aucun moment qu'elle a été faite d'une façon continue dans le passé, partout, sans condition. Elle est repérable partout. Il y en a des coutumes, il y en a des rites, il y en a des institutions. Mais on ne peut pas dire qu'elle soit quelque chose qui puisse tirer sa légitimité d'une existence passée absolument uniforme. Donc on ne peut pas tirer argument totalement à l'égard des restrictions contemporaines sur l'entrée des étrangers. On ne peut pas le tirer du fait de dire dans le passé c'était pas du tout comme ça partout, parce qu'on pourrait tirer beaucoup d'arguments. On peut prendre des exemples malgré tout qui sont intéressants pour montrer, par exemple, mettons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu l'affirmation du droit d'asile à un certain moment dans la Révolution et que cette affirmation a subi des restrictions de plus en plus grandes. C'était le premier point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas tirer un argument absolument général d'une histoire passée ou d'un archaïsme, ou on peut en tirer des exemples, certainement. C'est ce que je voulais dire, que, et ce que j'avais proposé toujours, c'est-à-dire qu'il y a des images, des exemples, des modalités qui sont extrêmement attirantes pour la pensée, non seulement et l'imaginaire, parce que la pensée était aussi un imaginaire contemporain, que l'on pourrait substituer à des réglementations, à des législations extrêmement, extrêmement limitatives et apparemment rationnelles, mais d'une rationalité qui est beaucoup moins séduisante et peut-être beaucoup moins rationnelle, en fait, que ces comportements. C'était le premier point. Le second point, c'est qu'on peut, si l'on considère hospitalité comme ouverture du point de vue collectif, je veux dire, je ne parle pas de l'hospitalité individuelle cette fois, mais collectif, comme étant l'ouverture d'un pays, l'accès, le large accès d'un pays aux autres, on voit, et c'est là que la contradiction qui est peut-être le problème essentiel, c'est que autant à l'heure actuelle on nous serine aux oreilles et on nous présente comme le seul mode de vie possible l'ouverture générale de toutes les frontières au commerce universel, mais d'autre part les individus ne sont pas ouverts, les frontières ne sont pas du tout ouvertes aux individus en chair et en os, et même parfois ils ont à peine ce qu'on pourrait appeler le droit de visite. Par conséquent, là il y a quelque chose qui peut-être pouvait présenter l'hospitalité comme étant un principe incontournable, un principe intransgressible d'ouverture, c'est-à-dire que tous les individus aient la possibilité d'aller dans les différents pays, qu'ils aient de ce point de vue-là ce que les anciens, d'ailleurs les stoïciens, ils n'ont jamais pratiqué exactement, mais ils l'ont posé comme principe, appelé la citoyenneté du monde. Le monde seul, nous ne sommes citoyens que du monde. C'était un principe stoïcien. Donc, c'est un principe qui peut avoir un aspect moral ou éthique, que, comme on voudra l'appeler. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire agir cette notion d'hospitalité comme un concept utopique, c'est-à-dire en l'entendant par utopie, non pas quelque chose qui est une fantaisie gratuite, mais quelque chose qui est une idée directrice, c'est-à-dire qui guide sans être peut-être applicable, sans devoir être peut-être jamais réalisé au sens propre, mais qui guide les intentions, les orientations d'action, qui est dans cette mesure également d'ailleurs inconditionnelle, puisqu'en définitive on ne pourra pas considérer l'hospitalité comme étant quelque chose qui soit limitable, et au contraire que l'on aura toujours intérêt à l'étendre partout où elle apparaîtra comme étant refusée. Oui. Mademoiselle, oui, je vous écoute.
Alors, vous voulez parler de la citoyenneté et l'identité telle que
La citoyenneté.
L'auteur, c'est Raymond Curie, et le livre, c'est Identité, citoyenneté à l'épreuve de la globalisation.
Oui, la citoyenneté du monde à l'égal de l'époque de la mondialisation serait logiquement la citoyenneté du monde, effectivement. C'était quelque chose qui avait été revendiqué juste après la guerre par quelqu'un qui s'appelait. C'était pas Romain Gary, Romain Gary est un... Mais c'était quelqu'un qui avait un nom un petit peu semblable. Oui.
Oui. C'est Raymond Curie.
C'est ça.
Ah.
Oui, c'est ça. Mais qui avait brûlé ses passeports, qui avait déchiré ses passeports et tout. Je ne sais pas ce qu'il était devenu, d'ailleurs, ni ce qu'il est devenu. Mais il avait affirmé qu'il était citoyen du monde. Il tirait cela de... comme une conséquence logique, déjà, d'ailleurs, du dernier conflit de 40-45, En quoi il s'est trompé, effectivement, puisqu'il y avait, à ce moment-là, il y a eu de multiples coupures, de multiples replis. Mais je pense, oui, dire, mais à ce moment-là, affirmer la citoyenneté du monde est également une revendication et une affirmation qui, dans une certaine mesure, est utopique. C'est-à-dire que si elle est obligée à... si elle s'accompagnait, veux-je dire, de la destruction des passeports ou des cartes d'identité, à ce moment-là, la personne qui ferait cet acte serait immobilisée chez elle parce qu'elle pourrait plus se déplacer. Bon. Mais je pense que cette revendication reste quelque chose de totalement légitime et d'inconditionnel aussi. On peut opposer à toute demande, à toute autre forme de rationalité, celle-ci, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une citoyenneté, c'est la citoyenneté du monde, c'est certain.
Donc la question, ce n'était pas celle des passeports déchirés, c'était autre chose. Vous voulez parler surtout de l'époque du Moyen-Âge,
oui,
et de l'époque où la France était un royaume. Alors dans son livre, Raymond Curie, le livre « C'est l'identité, oui, etc. citoyenneté à l'époque de la globalisation », il parle par exemple du nord de la Loire en comparaison au sud de la Loire.
Oui.
Et en fait, il compare la question de l'hospitalité par rapport à l'étranger. Oui. Pour montrer que les troubadours étaient plus hospitaliers, plus accueillants par rapport aux étrangers et qu'ils étaient plus ouverts aux autres cultures, notamment vis-à-vis des Arabes, des Juifs qui ont immigré en France. Et à l'époque des rois de France, comme il y avait des guerres et de la famine, des épidémies, etc., et le taux d'accroissement démographique était trop faible.
Oui.
Donc ils étaient obligés, pas par hospitalité, mais par nécessité, d'encourager l'immigration à cause du manque de ressources humaines. Et à une certaine époque, oui, même l'armée française, elle comptait plus d'un tiers d'étrangers à la base. Philippe le Bel, par exemple, il a fait entrer les Portugais au port de France. À notre roi, je ne sais pas, je ne suis pas sûre si c'est Henri IV, hein, il a encouragé la venue des Italiens,
oui,
à Tours.
Bien sûr.
Voilà. Donc il y a eu des métissages, il y a eu un mélange. C'est de façon que l'identité du pays, la France, est devenue déjà,
oui, mais bien sûr,
plurielle. Une identité plurielle. Mais ce n'est pas le
sujet. Oui. Vous avez parfaitement raison. Oui. Il est difficile d'entrer dans le détail parce que ce serait faire un cours d'histoire sur la fabrication de la nation et des différentes nations. La nation française en particulier, bon, ça a été fait. Il y a un livre de Philippe Noirel qui était très intéressant là-dessus, d'ailleurs, sur l'inexistence, en fait, de quelque chose qui puisse être considéré comme la nationalité française en dehors de ces différents apports, de ces différents mélanges. Et tous les pays sont constitués d'ailleurs un petit peu de cette façon. Les États-Unis, c'était en plus, ça tenait davantage encore même du patchwork que les pays européens, puisque les différents immigrants avaient conservé pendant très longtemps leurs différents statuts communautaires. Mais en France, ce n'est pas pareil, parce qu'à un certain moment, il y a eu un fusionnement qui a fait effectivement que la nation a centralisé, égalisé un petit peu ces différenciations, mais ça n'a pas empêché, d'autre part, au cours du XIXe siècle, les étrangers, dans certains cas, ce n'est pas d'ailleurs toujours tout à fait uniforme, c'est ça qui rend difficile une démonstration sur ce plan-là, mais les étrangers avaient plus de facilité de circulation, ne serait-ce d'ailleurs que par l'inexistence des papiers, l'inexistence des cartes d'identité. La carte d'identité avec photographie est extrêmement récente. Et très curieusement, d'ailleurs, cette idée d'une carte d'identité avec photographie, je l'ai dit aux étudiants qui ont été avec moi d'ailleurs, mais je le répète ici, ça a été une invention d'un philosophe, Fichte, le philosophe allemand Fichte, qui a, et que je l'avais lu, mais je ne pourrais pas vous repérer exactement où, qui avait écrit quelque part, avant même qu'il n'existe à la photographie, il avait eu l'idée de faire des papiers d'identité avec le portrait du personnage, puisqu'il ne puisse pas y avoir de falsification et que quelqu'un ne puisse pas passer ses papiers à un autre. C'est très curieux. Mais ce n'est pas étonnant, parce qu'il y a beaucoup... Toute cette tendance de l'idéalisme allemand, ce n'est pas parce qu'il serait allemand qu'il serait plus mauvais que d'autres d'ailleurs, mais qui était très rationalisant, a eu l'idée, à partir de Hegel, a eu l'idée justement du contrôle d'État. Or, la pensée de... Ce n'est pas tout ce qui était ainsi. Nietzsche était tout à fait anti-étatique, anarchiste. Mais ceux qui n'ont pas été anarchistes ont été justement pour cette idée du contrôle par les États, les États-nations. Et Fichte est l'auteur du discours à la nation allemande, qui était également un discours à la base même de l'idéologie de l'État-nation contemporaine. Mais pendant tout un temps, il a été plus facile aux individus, effectivement, d'échapper à ce contrôle. Précisément par suite de l'absence des moyens de repérage, de quadrillage, d'identification, qui sont les moyens actuels, qui effectivement là sont imparables à l'heure actuelle, puisqu'ils vont jusqu'à des empreintes électroniques, etc., génétiques, veux-je dire, et aux fiches électroniques. Mais il y a toute une époque où effectivement, de ce point de vue-là, la liberté de circulation, d'implantation, de déplacement, de mélange et de variété des populations était infiniment plus facile qu'à l'heure actuelle. C'est ça qui est une sorte de... C'est un peu une contradiction de toute cette histoire moderne qui affirme mondialisation, mais qui, d'autre part, pratique, au contraire, l'imitation. Là.
Oui. Il y a même eu une époque où on a accordé aux Grecs, aux Arméniens installés à Marseille, les privilèges et les droits des bourgeois de la ville.
Oui.
Par contre, les autorités... d'essayer déjà à cette époque du royaume de la France de contrôler, de surveiller les flux d'immigration et ceci était passé par l'assimilation et l'intégration. Alors, à travers l'interdiction de l'héritage, le droit de l'héritage, la naturalisation et la francisation, déjà à cette époque. Donc, ça a continué, mais je ne pense pas que ce soit dans le sens de l'identité telle qu'on le perçoit à notre époque, mais c'est plutôt pour intégrer les étrangers et les encourager à venir, à enrichir le pays et même faire venir leur famille pour les encourager à rester, à s'installer pour l'avenir en France. Mais là, c'est l'époque où l'on dit c'est devenu tellement compliqué entre pays riches et pays pauvres que même dans le contrôle de ces flux d'immigration, il y a aussi les étrangers qui ont été accueillis. Je ne sais pas si l'hospitalité engendre elle-même l'hospitalité, parce que moi, je tire un exemple de ma vie, c'est-à-dire de mon expérience personnelle. Alors, un jour, je me suis présentée au bureau des étudiants étrangers, comme je suis tunisienne. Et c'était juste pour renouveler une autorisation de séjour ici en France en tant qu'étudiant, parce que je me suis réinscrite. Et c'était pour faire un doctorat, ce à quoi je ne m'y attendais pas. Et alors, j'avais un rendez-vous, tout était bien organisé, j'avais le dossier complet, il ne manquait rien. Sauf pour des étrangers, des étudiants étrangers, martiniquais, d'origine martiniquaise. Alors, elle s'est contentée de me dévisager de la tête aux pieds, alors que j'avais rendez-vous avec elle. Elle m'a dit tout simplement, mademoiselle, on ne va pas étudier votre dossier. Alors, est-ce que l'hospitalité peut engendrer l'hospitalité? Ce sera pareil si c'était une arabe ou n'importe quelle française ou français d'origine étrangère à la base. Donc, c'est ça la question que je me pose. Donc, j'étais confrontée à ça, ça m'a fait très très mal au cœur. Et je suis encore en rage contre ça parce que ça m'a fait galérer et je galère encore.
Merci. Oui, Nicolas Zelner, qui avait un mot à dire. Vas-y, vas-y. Oui, on terminera bientôt, mais Nicolas, un mot. Vas-y.
C'est un tour. À mon avis, les problèmes qu'on rencontre là, pour l'hospitalité, c'est qu'en fait, comme toute idée utopique et en même temps rigoureuse,
oui, c'est ça. Mais utopie ne veut pas dire fantaisie, ça veut dire quelque chose de très rigoureux, oui, dans sa détermination et dans sa prescription. Oui.
Comme elle est utopique et rigoureuse, moi j'en déduis en fait que utopie et rigoureuse, ça donne une idée révolutionnaire, en fait. C'est-à-dire,
non, mais tu as raison, oui.
C'est parce que cette exigence thermolique de l'hospitalité, elle va ruiner, si il y a une pratique, c'est parce qu'avant que tu parles d'hospitalité, personne n'en parlait. Que je veux dire, parce que c'est pas, il y a de l'hospitalité tout le temps, c'est on a vu ça parce que tu en as parlé. Oui. Bon, mais une fois, s'il y a une pratique qui réussit à prendre le relais de cette idée d'hospitalité, et que tout le monde se met à donner l'hospitalité, l'institution de la famille et l'institution de la propriété vont être ruinées aussi sûrement que l'institution gazeuse. Parce que moi,
ça, c'est pas sûr.
Oui, c'est ça.
Je vais vous dire pourquoi.
Mais il y avait en mai 68 un slogan qui était plus ou moins juste, mais enfin qui n'était pas mauvais, qui était « Chassez le flic de vos têtes ». Et moi, je dirais relativement à ça, c'est-à-dire chasser la sécurité et l'identité de vos têtes et mettez-y l'hospitalité. C'était ça ce que je voulais dire dans une idée directrice et utopique, c'est ça. Oui.
Juste pour revenir à ce que vous disiez sur l'hospitalité, est-ce qu'en fait le terme hospitalité ne relève pas exclusivement de la sphère privée?
Ah ben c'est justement ça que je voulais que je contestais. Non, oui.
Parce que est-ce que c'est pas l'individu, chaque individu?
Non, mais parce que dans l'Antiquité même, sur quoi j'appuyais mes exemples, il y avait précisément l'hospitum publicum, qui était l'hospitalité publique et l'hospitalité privée, qui étaient séparées. Non, elle est depuis très longtemps transformée en hospitalité publique, tout au moins dans l'Antiquité gréco-latine. Je ne sais pas dans l'Antiquité arabe, mais également quand elle a imité un petit peu des institutions. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, hospitalité peut avoir... Si, ça peut avoir un sens privé. C'est privé dans le sens très large où, en fait, le collectif est fait, au fond, d'options privées. C'est-à-dire que une collectivité n'est pas une transcendance, c'est quelque chose qui est constitué par l'opinion de tous les gens qui la forment. Donc, c'est de ce point de vue-là, c'est à la fois privé et public. Mais quand on parle, je crois, à l'heure actuelle, dans l'actualité présente, d'hospitalité, on vise malgré tout plutôt à cette inhospitalité des attitudes, des décrets, des hommes politiques, c'est-à-dire qui sont des hommes collectifs, justement, qui agissent sur les collectivités, des médias, etc. Donc c'est bien un sens collectif, mais qui répond à des attitudes privées. C'est pourquoi je dis, au fond, ça correspondrait un peu à chasser de vos têtes les slogans. Voilà, c'est pas, je ne fais pas ici de discours prescriptif, mais dans la mesure où les idées sont directrices quand même, on peut dire, si l'on chasse de sa tête ces idées d'identité et de sécurité, qu'on les remplace par celle d'hospitalité, c'est une modification qui également nous fait voir la chose publique d'une façon différente. Donc à la fois, ça concerne les citoyens individuels et ça concerne les actions collectives, c'est certain. Qu'est-ce que tu avais à dire? Je t'ai coupé la parole, Susie.
Alors ça, vraiment, non.
Tu m'as coupé la parole quand?
Pas du tout.
Ah bon? Alors.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, mais je voulais t'entraîner sur des terrains de la jovialité philosophique, c'est-à-dire te raconter très rapidement que l'hospitalité, qui est un concept de noble comportement, a des côtés pervers. Une perversion, comme tout ce qui est sacré et qui verse un peu l'humanité dans le rêve que tout n'est pas perdu et qu'en remettant en selle certaines valeurs, on peut parvenir à atténuer la nuisance ou l'acidité de ce qui vient troubler les rapports humains comme forme de violence ou de vampirisme. Volonté de pomper le sang de l'autre, son énergie. C'est la perversion de l'hospitalité depuis qu'elle soit prise d'ailleurs sur le chien antique des voyageurs solitaires ou de toutes les situations. Il y a dans la culture, et précisément dans ces cultures un peu de mobilité humaine, d'échange, de rencontre, quelque chose qui prévient contre les dangers de la perversion de l'hospitalité. Alors, c'est l'histoire de ce personnage qui s'appelle ici Goa, par exemple, en Afrique du Nord. Alors, en Turquie, il s'appelle Hajjan Asaddin. En Iran, il s'appelle autrement. Il a des noms partout, mais il représente à peu près la même figure de l'idiot qui renverse un peu les clichés, les croyances établies, etc. Et qui est un réservoir où les traditions différentes des différents peuples vont mettre sous forme extrêmement comique et risible des situations qui, comme la caricature dans la modernité, a l'intérêt de faire penser, de donner à penser. Alors, c'est Goa est chez lui, dans un village, il reçoit un voyageur. Et le voyageur, il montre tous les signes de la fatigue, et la soif, la faim, etc. Il lui dit, je viens demander l'hospitalité. Il lui dit, rentre. Il le fait rentrer dans une pièce qui est destinée justement à recevoir les étrangers. Et puis il lui dit, bon, reste là, je vais t'apporter à manger. Il lui apporte, il va voir sa femme, de l'autre côté de la maison, il lui apporte un ragoût. Et un ragoût, il lui dit, je pose ça parce que c'est chaud, attends-moi un peu, je vais chercher le pain. Il va chercher le pain, et le temps qu'il revienne avec le pain, il trouve que le voyageur a tout mangé, il avait tellement faim qu'il a mangé tout le ragoût. Il dit, bon, c'est pas grave, je pose le pain, je vais te chercher du rab ou de ragoût. Il prend le plat pour aller chercher du rab, il revient, et l'autre a mangé tout le pain. Il dit, bon, c'est pas grave, je pose ça, et je vais chercher le pain de nouveau. Et puis il fait 5 ou 6 voyages comme ça, et puis à la fin, ne pouvant plus, il casse une autre règle de discrétion. Et il dit à sa femme, bon, tant pis, je m'en fous, prends le pain avec moi, je prends le plat avec toi, et on va tous les deux pour le partir simultanément aux voyageurs. Là, il prend ça, puis alors, et l'autre, il ne peut plus, ou alors il avait complètement mis sa dose. Il mange, et puis le personnage lui dit, mais où vas-tu? Où vas-tu donc, ô voyageur? Il lui dit, ben, je suis sur mon chemin, qui est très long et périlleux, vers la Mecque, pour le pèlerinage. Il lui dit, je t'en prie, j'ai une demande à te faire. Il lui dit, oui, oui, vas-y, j'ai plein de demandes sur ma route. Tout le monde me fait des demandes que je porte au tombeau du prophète, parce que les musulmans croient que, même indirectement, si on fait une demande au prophète par le truchement d'un autre pèlerin, ben, il y a de fortes chances qu'elle soit exaucée. Et donc, il croit que c'était une demande de ce genre-là, une demande intéressée. Il lui dit, vas-y, demande-moi tout ce que tu veux, puisque je vais à la Mecque. Il lui dit, demande au prophète qu'il te renvoie par un autre chemin, chez toi. Qu'il te renvoie par un autre chemin qui ne passe pas par ici. Et c'est une histoire qui dit tout ce qu'elle dit. Pas de moralité, c'est-à-dire que l'hospitalité, comme toute chose, extrêmement précieuse, qu'elle soit aporistique ou abondante, est extrêmement fragilisée par le mésusage, peut-être. Oui. Qu'en penses-tu, René?
Ah non, terminons là-dessus, bon, je ne vais pas en penser. C'était une excellente histoire, excellente anecdote.